Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, au menu du 35e épisode d'Asialogie,
eh oui.
Retour en Corée du Sud. Chers auditrices et auditeurs, retour en Corée du Sud pour revivre la destitution du président Yoon Suk-yeol le 4 avril. Et ça, c'est avant les nouvelles élections qui sont prévues le 3 juin, donc très bientôt.
Ouais, ça va vite.
On est en pleine campagne, voilà. Donc des élections qui seront bien sûr scrutées par le monde entier.
J'imagine bien, ouais.
Et toi, Didier, tu vas nous parler de jeux d'argent cette fois. C'est pas très éloigné de notre premier sujet, je trouve.
Finalement, oui, il y a eu un jeu un peu d'argent. Ouais.
Un peu, d'accord. Ouais. En tout cas, il y a eu un drôle de jeu.
C'est ça. Alors, du coup, allons vers ces élections qui ont été anticipées, comme tu l'as dit.
Elles sont anticipées, t'as raison. Oui, tout à fait.
C'était pas tout à fait prévu comme ça.
Ah non, c'était pas du tout. Il venait d'être élu. Hein.
Voilà, justement, voilà. Tu peux nous rafraîchir la mémoire de ce qui s'est passé dans la nuit du 3 décembre 2024 en Corée du Sud. Parce que c'était, moi, à l'époque, ça m'avait fait l'effet d'une bombe, ça m'avait surpris quand même.
Oui, c'était quand même comme une bombe. Hein. Et c'est précisément à 22h27 que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé l'instauration de la loi martiale à la télévision. Et c'était donc, comme tu le disais, Didier, le 3-12.
C'est ça, un peu brutal.
C'était très, très brutal avant Noël.
Voilà.
Alors, il a accusé le Parti démocrate majoritaire à l'Assemblée nationale de mener des activités anti-étatiques et de collaborer avec des communistes nord-coréens. Ça, c'est extrêmement grave. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient attaqué la Corée du Sud après la guerre.
Oui, non, bien sûr.
Et donc de collaborer avec le Nord pour déstabiliser le pays. Alors cette loi martiale déclarait interdire toutes les activités politiques, suspendre les sessions de l'Assemblée nationale et de restreindre la liberté de la presse. Alors cela a rappelé aux Coréens les heures sombres des anciennes dictatures et régimes autoritaires très récents, hein, puisque c'était entre 1961 et 1900.
Vous avez fait le rappel de tout ça, effectivement.
Voilà, 1987. Alors la démocratie coréenne date de 1987.
Oui, c'est finalement pas si vieux.
Exactement. Alors cette déclaration a suscité une opposition immédiate et vers 1h du matin, le 4 décembre, 490 parlementaires ont réussi à se rassembler au sein de l'Assemblée nationale et ont voté à l'unanimité la levée de la loi martiale, malgré les tentatives de l'armée pour empêcher le vote. Mmh. Yoon a donc été obligé de lever la loi martiale à 4h30 le même jour.
Mmh.
Et bien évidemment, cette crise a entraîné des manifestations dans tout le pays, avec l'appel à la démission du président. Alors, le 14 décembre 2024, l'Assemblée nationale a voté la destitution de Yoon, le suspendant de ses fonctions en attendant la décision finale de la Cour constitutionnelle. Ça fonctionne un petit peu comme en France. Hein.
Mmh.
Et entre-temps, Yoon a été arrêté le 15 janvier et inculpé pour insurrection le 26 janvier, devenant ainsi le premier président sud-coréen en exercice à être arrêté et inculpé. Il y en a eu beaucoup d'arrêtés et d'inculpés, mais après,
pas en exercice.
Voilà.
Okay.
Et ce 4 avril 2025, la Cour a confirmé sa destitution et l'organisation d'élections anticipées pour le 3 juin 2025.
D'accord. Ah. Du coup, Corinne, explique-moi, c'était quoi le contexte social de tout ça?
En fait, ce qui s'est passé en Corée du Sud en décembre 2024 fait bien écho à ce qui se passe aux États-Unis, enfin ce qui s'était passé aux États-Unis, ce qui se passe actuellement aussi avec Trump, et à ce que l'on vit un petit peu partout dans le monde, la montée de l'extrême droite, d'un ultra-conservatisme. Mmh. À minima. Hein.
Okay.
Et surtout, la remise en question de l'état de droit. Et c'est ce que fait Trump actuellement.
Oui, là, on a des exemples. Hein.
On n'en manque pas. Alors, je vais donc rappeler brièvement la situation politique de la Corée du Sud au moment de l'élection de Yoon en mars 2022.
Oui.
Il faut d'abord se souvenir que le président est élu pour 5 ans en Corée du Sud et ne peut être réélu. Alors Yoon Suk-yeol était un ancien procureur général et le candidat du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, le Parti conservateur.
D'accord.
Alors il a été élu président de la Corée en mars 2022, donc c'était très récent, dans un contexte de fracture sociale, avec un taux de participation de 77%, c'est pas mal,
quand même,
mais avec seulement 0,73% de voix de plus de son principal adversaire, Lee Jae-myung, du Parti démocrate.
Ah, ça s'est joué à peu.
Voilà, ça s'est joué à très peu. Et ce qui en fait l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire de la Corée du Sud, 247 000 voix de différence. C'est quand même pas beaucoup.
Alors, Corinne, qui était le président démocrate au pouvoir avant l'élection de Yoon Suk-yeol?
Alors, c'était Moon Jae-in, un avocat spécialisé des droits de l'homme. Mm-hmm. Alors, son mandat a été marqué par des initiatives de rapprochement avec la Corée du Nord.
Ouais.
Et il a même rencontré Kim Jong-un en avril 2018.
Ouais.
Sa gestion de la pandémie à Moon Jae-in, de la pandémie de Covid-19, a été vue par le monde entier comme remarquable.
C'est vrai, je m'en souviens, effectivement.
Et c'est ce qui a permis à son parti, donc le Parti démocrate, de remporter les élections législatives de 2020.
D'accord.
Mais le mécontentement s'est installé contre le gouvernement à cause de la crise du logement, des scandales de corruption et de problèmes économiques, et à cause des accusations de favoritisme, de népotisme, et aussi du féminisme présumé de Moon Jae-in.
D'accord.
Voilà.
Alors, Le féminisme présumé du président démocrate, les jeunes auraient donc voté pour Yoon Suk-yeol, le conservateur ?
Les jeunes hommes. Les jeunes peut-être, mais surtout les jeunes hommes.
Et
on observe ça aussi en France et aux États-Unis.
Eh oui.
Hein, c'est le masculinisme ambiant. Alors, il y a donc c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Alors, ce sont donc, les jeunes hommes dans la vingtaine, donc très jeunes même, qui se sont sentis abandonnés par les politiques progressistes de Moon Jae-in, qui avait adopté des politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes.
Mmh.
Ce qui a fait penser certains jeunes hommes à se sentir désavantagés. Et puis, ils se sont sentis vus comme des oppresseurs et voyaient ça comme une justice inversée.
D'accord.
Alors, Yoon, lui, il avait publiquement déclaré qu'il n'était pas féministe, ce qui lui a valu des critiques, mais aussi du soutien.
Bien sûr.
Voilà, par ces jeunes hommes frustrés. Et ces jeunes hommes frustrés, ils étaient aussi favorables à sa proposition de supprimer le ministère de l'égalité des genres.
Ah.
Parce qu'il y en a besoin en Corée. Enfin, il y en a besoin un peu partout, mais c'est triste qu'il y en ait besoin.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, les jeunes hommes ont vu en Yoon un président qui les comprenait dans un contexte du marché du travail très compétitif. Il ne faut pas oublier que les femmes, elles sont très diplômées en Corée du Sud.
D'accord.
Alors, le comble, c'était aussi qu'il était vu, cet homme-là, comme un homme intègre, déterminé à lutter contre les abus de pouvoir.
Mais oui, ancien procureur.
C'est ça.
C'est ça.
Il était célèbre pour ses enquêtes anticorruption, même contre des personnalités puissantes. Alors, il incarnait finalement une promesse de changement avec une politique conservatrice plus favorable aux entreprises, avec moins d'intervention d'État.
Ouais.
Et puis, il y a eu de nouvelles élections législatives en avril 2024, avec une nouvelle victoire du Parti démocrate. Ben oui, ça avait failli se faire déjà. Le président, le candidat démocrate avait failli être élu, enfin, un peu à quelques voix près. Voilà, donc le taux de participation était de 66% et le Parti démocrate a obtenu 173 sièges.
D'accord.
Celui des conservateurs, 108 et les autres partis, 19. Donc celui des conservateurs avait été largement battu. Voilà, donc le Parti démocrate a renforcé sa majorité. Il a désavoué le parti du président qui ne pouvait gouverner à cause des nombreuses motions de censure, sans compter les soupçons de corruption à son encontre et à celle de sa femme, parce que Yoon Suk-yeol, il est aussi accusé de corruption, et sa femme aussi.
D'accord, bah écoute.
Voilà, bon, on va faire une pause, parce que c'est un peu lourd, la politique.
Tout à fait,
mais bon, des fois, c'est bien de clarifier, puis de se rendre compte que ce qui se passe C'est quand même un courant, on va dire, général actuellement.
Exactement.
Donc, c'est une chanson de paix qui a été choisie par une Coréenne
oui.
qui s'appelle Sojong. On va en parler plus tard de Sojong. C'est une chanson qu'elle a eu envie d'écouter pendant cette période
D'accord.
de trouble.
Ok. Alors, vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3. Asiologie est avec vous. Retournons donc en Corée du Sud. Quel était le contenu du discours de Yoon pour instaurer la loi martiale, Corinne? C'est quoi l'argument, en fait?
Oui, c'est ça. C'est quoi l'argument? Alors, dans son discours, Yoon a exprimé que depuis l'inauguration de son gouvernement, l'Assemblée nationale avait déposé 22 motions de censure.
Ah.
C'est pour, on est quand même bien dans un contexte, hein, ça nous
oui,
parle.
Oui, ça nous parle un petit peu.
Pour destituer des fonctionnaires,
oui.
ce qui, selon Yoon,
oui.
paralysait l'administration et menaçait la sécurité nationale.
Eh bien, on n'est pas loin de la loi martiale en France, alors.
Voilà. Il a déclaré que cela l'obligeait à proclamer la loi martiale pour protéger la démocratie libérale et assurer la sécurité publique.
D'accord.
Il accusait tout simplement l'Assemblée nationale, un vrai repère de criminels, de vouloir réduire les budgets majeurs pour les mesures contre la criminalité, ce qui transformerait la Corée en paradis de la drogue.
Bah tiens.
Alors je résume, hein, mais c'était quand même des grosses ficelles comme ça.
Oui, c'est ça.
Et ce sont les ficelles qu'il a utilisées, mais il y en avait d'autres.
D'accord.
Voilà, alors je vais vous donner un petit extrait de son discours.
Mm-hmm.
Mes chers concitoyens, je déclare donc la loi martiale pour protéger la République de Corée des menaces des forces communistes nord-coréennes pour éradiquer immédiatement les forces anti-étatiques. Grâce à cette loi martiale d'urgence, je reconstruirai et protégerai la libre République de Corée qui tombe en ruine.
Ah oui, on y est là. Attention.
Ça fait peur.
Alors, c'est clair.
Il a voulu faire peur.
Alors,
il avait les mots pour ça.
D'accord. Alors, du coup, Corinne, comment les Coréens ont vécu cette horrible situation, puis bah, l'annonce de la destitution après de Yoon, c'est quand même pas commun. Donc.
Oui, alors, les Coréens ont très mal vécu hein, la situation, on en a déjà parlé, on en reparlera sûrement.
Mm-hmm.
Mais je vais me faire la voix de Sojong.
D'accord.
Donc, cette jeune mère de famille coréenne, très active sur les réseaux sociaux, qui parle un français parfait.
Ouais.
Et qui a publié son ressenti dans l'attente de l'annonce de Yoon. Et je me suis dit que c'était bien de me faire sa voix.
Bien sûr.
Surtout que c'est un peu poétique en plus.
Alors, allons-y.
Alors, Sojong, elle dit « Ce printemps, les cerisiers du jardin de mes parents tardèrent à fleurir par rapport aux années précédentes, sans doute à cause de plusieurs vagues de froid, jaloux des fleurs, comme on dit en Corée, qui nous surprirent jusqu'au début avril. Et puis, que la Cour constitutionnelle traînait avec ses délibérations. Toutes sortes de rumeurs circulaient en accroissant notre angoisse. En scrutant fiévreusement les titres des actualités pour savoir si le tribunal avait annoncé la date du verdict, je murmurais souvent cette citation. Le printemps est arrivé, mais ça ne ressemble pas au printemps. Le 1er avril, vers 10h40, je découvris enfin la dépêche tant attendue. La Cour constitutionnelle rendra son verdict ce vendredi à 11h. Que le temps passa lentement, je ne dormis presque pas la veille du jour J. Le matin, je me levais tôt, j'ai fini le ménage, j'ai cuisiné, j'ai fait du sport pour que le temps s'écoule plus vite. Et lorsque j'allumais enfin la télé à 10h30, je vis un compte à rebours affiché par la chaîne de télévision. Je pus également voir une immense foule rassemblée près de la Cour constitutionnelle. Des policiers et des bus de la police encerclaient le tribunal de manière à ce que personne ne puisse se rapprocher à moins de 150 mètres du site. La police avait déclenché l'alerte maximale à minuit et 14 000 agents s'étaient déployés à Séoul. Silence total au moment où les 8 juges entrèrent dans la salle. Mon cœur battait à tout rompre. Le président par intérim de la Cour, Moon Yejeonbe, garda le silence pendant une minute. Puis il ouvrit la bouche. « Nous allons nous prononcer sur l'affaire 2024 ONA 8, celle de la destitution du président Yoon Suk-yeol. » Il commença par l'examen de la légalité de la procédure, car les avocats de Yoon avaient avancé 6 causes pour contester la légalité du procès. Toutes furent rejetées. « Ouf, on gagna la première manche, me dis-je. » Ensuite, il rejeta toutes les allégations avancées pour justifier les actes de Yoon et retint toutes les accusations du Parlement. À chaque fois qu'il reconnaissait l'illégalité des actes de Yoon, je poussais un cri de joie. Les phrases qui me marquèrent le plus étaient celles-ci. Le président a violé le premier article de la Constitution. La République de Corée est une république démocratique. Si le Parlement a pu voter la révocation de la loi martiale si rapidement, c'est non seulement grâce à la résistance du peuple, mais aussi à celle des soldats et des policiers réticents à exécuter l'ordre du président. Etc, etc. Alors le juge Moon lut le texte pendant 22 minutes. Avant de prononcer le verdict, il demanda l'heure exacte, 11h22. Le verdict tomba. La cour destitue le président Yoon Suk-yeol. La télé montra une immense foule en liesse. Les manifestants se serrèrent dans les bras, poussèrent des cris de joie. Beaucoup pleuraient, comme moi. Le présentateur avait aussi la voix nouée d'émotion. Et pour me calmer un peu, je sortis pour aller voir les cerisiers. Le soleil brillait au ciel immaculé. Il faisait plus doux que la veille et les fleurs se mettaient à s'ouvrir.
Ah, joli.
C'est joli la chute de Sojong. Elle fait de très beaux textes et j'ai un peu bégayé, j'en suis désolée.
Ouais, ça méritait ça.
Sojong, pardonne-moi, j'ai aussi l'émotion, moi, à te lire. Voilà. Bon, on va changer tout à fait de registre, Didier.
Je crois, oui.
Je crois que tu nous as trouvé une pause musicale pour nous mettre dans l'enfer du jeu.
Oui.
On va écouter Macao du Grand Orchestre du Splendide.
Je ne pouvais pas faire l'économie de ça.
Non, on ne pouvait pas.
L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une roussie épaisse moiteur.
Pour la 12e fois de la soirée, Jeanne Gravel l'air emmerdé. 3e bouton de son bustier pour 3 matelots vraiment flippés.
À la grande table de poker, deux as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sur le revolver.
Macao, Macao,
Macao. L'énorme et vieux ventilateur mélangeait friture et sueur. On sentait monter la terreur comme s'il y avait plus de pesanteur.
C'était un gros coup de nostalgie, Didier.
Ah oui, on bascule en 79 quand même.
Ouais. Et c'était sur Asiologie et sur Radio Alpa 107.3. Peut-être que tu vas nous parler des jeux de hasard en Chine pour commencer, Didier. Par quoi tu vas commencer ?
Ah, par quoi je vais commencer ? En fait, Tout d'abord, en fait, retenir qu'il s'agit en fait de jeux d'argent. L'Asie ne fait pas les choses à moitié, en fait, hein, entre les salles bondées donc à Macao, là, avec le clin d'œil qu'on vient d'avoir, les parieurs discrets de la Corée et les jeux clinquants et bruyants du Japon.
Ouais, c'est pas les mêmes ambiances.
C'est pas la même ambiance. Oui. Il y a plusieurs salles et on va toutes les faire. L'envie de tenter sa chance est bien ancrée hein, dans les cultures locales, malgré les lois souvent très strictes. Commençons donc par la Chine, où les jeux de hasard sont très anciens, puisqu'ils remontent au XVIIe siècle avant Jésus-Christ.
Oui, c'est vieux.
Ça remonte. Ces ancêtres des jeux de loterie étaient utilisés pour financer des projets publics, de grands travaux ou d'autres collectivités. On n'a rien inventé. À noter que pour le peuple, les roues de la fortune, les dés et autres formes de paris ont toujours fait partie des fêtes et des événements sociaux.
Alors, à partir de quand les jeux d'argent sont devenus choses courantes, importantes ?
Alors, c'est au XVIIe de nos siècles, après Jésus-Christ, que les jeux d'argent sont devenus indissociables des divertissements populaires, comme le mahjong, dans lequel on pouvait miser sans se faire remarquer lors des réunions de famille. Puis, au début du XXe siècle, la République chinoise n'a pas mis fin aux jeux, bien au contraire. Et les maisons de jeux ont prospéré à Shanghai et dans d'autres grandes villes. De même que les casinos et les courses de chevaux qui se sont multipliées malgré le tiraillement entre tradition et l'opposition morale des autorités.
Mais il a fallu du temps parce que c'était 10, tu nous as dit 17e avant Jésus-Christ
et là 17e après. Oui, c'est pour ça que
d'accord.
J'ai précisé.
Alors comment cela s'est passé avec la révolution de 49 avec Mao? Alors, en Chine.
Oui, avec le communisme et Mao, les jeux d'argent ont été interdits.
Ah oui, c'est ça.
Ils étaient vus comme une émancipation du capitalisme.
Une émanation, pardon.
Excuse-moi. Lapsus et la corruption.
On est un peu fatigué.
Comme un vice, oui, voilà, à éradiquer, en fait. Mais ça n'a pas empêché l'existence de jeux clandestins, surtout à Shanghai, où les paris illégaux prospéraient, en fait. Après Mao, l'ouverture économique de la Chine a permis la réouverture des loteries nationales pour financer des projets de bien-être social, des loteries sportives très régulées. Mais le jeu de hasard en Chine continentale reste aujourd'hui interdit. Mais le jeu illégal persiste via des plateformes où les Chinois parient sur des sites étrangers ou sur des réseaux privés en fait.
Alors, et Macao ?
Ah, Macao.
On dit que c'est le Las Vegas asiatique, Didier.
Oui, Macao est une ancienne colonie portugaise.
Oui.
Et un paradis pour les joueurs du monde entier et dépasse désormais Las Vegas. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Macao, comme Hong Kong, est devenue une région administrative spéciale en 1999 et devenue l'épicentre du jeu en Asie depuis les années 2000.
Ah oui.
Macao est le seul endroit en Chine où les casinos sont légaux et Hong Kong est l'endroit où les Chinois peuvent légalement parier sur des courses de chevaux.
Alors on peut toujours contourner finalement.
Voilà, bien sûr.
Et en Corée, il y a beaucoup de différences avec la Chine ?
Alors, en Corée du Sud, c'est...
Oui, on parle de la Corée
sûr,
du Sud.
Hein. Pour le Nord, je ne suis pas au point là. Et entre restrictions et adaptations, et leur développement a été fortement limité par tous les gouvernements depuis les années 60. Comme dans d'autres pays asiatiques, les jeux étaient associés à la corruption et aux problèmes sociaux. Depuis, en fait, l'avènement de la démocratie en 90, il y a des régulations strictes concernant les jeux d'argent. Important à savoir, les 23 casinos existants aujourd'hui sont réservés uniquement aux étrangers, avec une seule exception, le casino de Kangwang Land, à 150 km de Séoul, le seul accessible aux Sud-Coréens. C'est peu. Par contre, les courses de chevaux...
Il y a des casinos, mais les Coréens ne peuvent pas jouer.
Ça m'a surpris. Par contre, les courses de chevaux, les paris sportifs et le loto sont tous des moyens légaux de jeu. Sans oublier le pachinko, importé du Japon, qui a aussi du succès.
Parle-nous du Japon, Didier,
alors,
justement.
Justement, pour le Japon, c'est entre tradition, répression et réforme. Les jeux de hasard remontent à l'époque féodale, celle des samouraïs, qui préféraient parfois, lors de conflits mineurs, parier plutôt que de se battre. Cela leur permettait d'éviter des duels et de se faire mettre en prison à certaines époques où les duels étaient interdits. Attention. Donc c'était la décision des cieux, voilà, par le jeu. Sinon, les jeux de hasard étaient illégaux, mais plus ou moins tolérés jusqu'au début du XXe siècle, où ils ont été officiellement interdits. Beaucoup de jeux d'argent clandestins subsisteront, souvent liés au Yakuza, forcément.
Alors, il y a pourtant des jeux qui sont permis au Japon.
Oui, bien sûr.
Aussi.
Il y a donc le pachinko, comme on en a parlé, les courses de chevaux, les courses parler pour la Corée du Sud, les courses de bateaux et les courses de vélo dont les paris sont autorisés sous licence gouvernementale. Le Kering, ça, j'ai déjà vu des courses, c'est étonnant. L'État prend une part donc, des bénéfices, un peu comme en France, en fait, avec le PMU. Hein.
Oui.
Quant au pachinko, revenons, parce que ça ne vous parle pas forcément, ça s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, avec des milliers de petites salles partout.
Bah, parle-nous du pachinko.
Justement, j'y viens, pas d'impatience. C'est un jeu de billes très populaire, né dans les années 20, qui a évolué vers un jeu d'adulte avec des gains indirects. On gagne des objets qu'on va tout simplement revendre. C'est un contournement légal. Aujourd'hui, les pachinko ressemblent à la fois aux machines à sous ou aux flippers et elles sont devenues électroniques. Les machines modernes appelées digital pachinko combinent mécanique, classique et écran numérique. Le jeu reste similaire, mais avec des animations, des bonus, des jackpots générés électroniquement pour rendre l'expérience plus dynamique encore et très bruyante.
Et t'as prévu de nous le faire écouter, je suis
sûre. Voilà,
c'est ça. T'as pas résisté.
Ah, ça parle peut-être pas trop, là, mais...
Si, ça fait du bruit quand même.
C'est ça, ça fait un peu brouhaha.
C'est un espèce de brouhaha
insupportable. C'est ça, un brouhaha complet, pas très supportable, oui.
Bon, bah, Didier, c'est bientôt fini, mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur les casinos au Japon. Est-ce qu'il y en a ?
Alors oui, ils sont réglementés. Ils étaient interdits jusqu'en 2018, l'année de la légalisation des complexes hôteliers hébergeant des casinos. Cette réforme visait à attirer des touristes étrangers, à stimuler l'économie, mais ça n'a pas rencontré le succès escompté à cause d'une résistance sociale liée au risque d'addiction du jeu et aussi aux difficultés de financement depuis la pandémie du Covid-19. Donc, comme en Corée, le gouvernement japonais met un accent particulier sur la prévention de l'addiction au jeu, avec une limitation des heures d'ouverture des salles de pachinko et d'un suivi rigoureux des joueurs compulsifs.
Merci Didier. C'est sympa le pachinko.
Je suis pas sûr. Je suis pas très jeu d'argent et en plus quand j'entends le bruit là que ça fait, oula, moi je préfère la nature et les oiseaux.
Ça ressemble à nos machines à sous. Allez, on va dire ça.
Si vous regardez les images, voilà.
Didier Asialogie.
Eh bien, alors on se dit à la semaine prochaine, c'est
ça ? Oui, on se dit à la semaine prochaine. Chères auditrices, auditeurs, on se retrouve donc jeudi prochain à midi, samedi à 9h30 et bien évidemment en podcast sur Radio Alpa, toujours sur Radio Alpa 107.3 ou radioalpa.com. Passez une bonne semaine. On vous retrouve très vite.
Merci. Voilà, tout ça maintenant, ils connaissent quand même après tant d'émissions.
Oui.
Nos rendez-vous sont acquis.
C'est vrai.
En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Thank you.